dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance,
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Les enfants ne sont pas responsables de leurs parents et que tous les enfants du monde, y compris les enfants terroristes, ils ont droit à l'école, à l'instruction, à l'éducation et puis à l'amour aussi. Voilà.
On ne va pas vers un monde de paix, vers une troisième génération pacifiste, si on ne veut pas réparer les plaies du Pays Basque ou les plaies de l'Espagne.
Et si on veut rentrer dans un processus de paix, il faut établir une balance juste. Hein. Qu'il y ait des gens qui soient condamnés, moi ça ne me choque pas sur le principe, hein. Après il faut vraiment le détail. Mais que ça soit la même chose des deux côtés, pas que d'un seul.
Et je pense sincèrement que maintenir, surtout au jour d'aujourd'hui, un combat sur l'humanité, des relations interpersonnelles, des relations urbaines ou des relations institutionnelles, devient un enjeu révolutionnaire.
Là encore, le gouvernement espagnol est non pas dans la justice mais dans la vengeance. Parce que les gens fassent de la prison pour un certain nombre d'assassinats, ça peut se discuter aussi, hein, c'est pas ça le souci. Mais qu'on décide de les emprisonner à vie, c'est-à-dire de les faire mourir en prison, ça, là encore, la France ne sort pas avec beaucoup d'honneur de ce genre de deal. Faut arrêter de nous la jouer, la défense des droits de l'homme et compagnie.
Etak Euskal Herriari azken adierazpena. Etak nazio askapenerako erakunde sozialista iraultzaileak bere bilbidearen bukaeraren berri eman nahi dio Euskal Herriari. Etako kidegoak erakundearen ziklo historikoa eta funtzioa amaitutzat jotzeko proposamena berretsi ostean.
La voix que vous entendez est celle de Marisol Iparragirre. Cet enregistrement date du 3 mai 2018.
En langue basque, Marisol, au nom de son organisation, l'ETA, déclare que cette structure renonce à 60 années de lutte armée contre l'État espagnol et prononce sa dissolution.
Auparavant, dès 2004, Marisol avait été arrêtée avec son compagnon Mikel en France, puis condamné pour participation à une organisation terroriste à 20 années de prison.
En 2019, elle et son mari sont extradés vers l'Espagne. Mikel reste libre, mais Marisol est aussitôt incarcérée. En juillet 2020, à Madrid, elle vient d'écoper de 122 années de prison, accusée d'avoir fomenté un attentat contre un officier militaire, accusation qu'elle réfute.
Dissonance va revenir sur le parcours de Marisol avec deux invités, Tide Rossel et Jean-Marc Reynaud.
Il y a 20 ans, ces deux anarchistes, créateurs de l'école libertaire Bonaventure sur l'île d'Oléron, accueillent une maman et son enfant. Cette dernière vient pour inscrire son fils dans leur école. En 2004, Tide et Jean-Marc apprennent par la presse l'arrestation des parents de cet enfant, suspectés d'être des militants de l'ETA, des Etarra.
Tout au long de cette émission, avec Tide et Jean-Marc, enregistrés au téléphone, et avec Marisol en pensée, nous aborderons la condition de détention des prisonniers politiques basques et nous nous demanderons comment une justice peut-elle être réparatrice quand elle soumet des femmes et des hommes à des peines qui, de l'avis des spécialistes internationaux de politique pénitentiaire et pénale, s'apparentent à des peines de mort lente.
Un goût de revanche ne planerait-il pas dans les coursives des prisons de France et d'Espagne ?
Gora Euskal Herria eskatuta. Gora Euskal Herria socialista. Jotake, independentzia eta sozialismoa lortu arte.
Marisol Iparaguirre,
122 ans de prison, avec Tide Roussel et Jean-Marc Reynaud.
Sur Dissonance.
Nous nous rendons à Choc, sur l'île d'Oléron.
La parole est à Tide Roussel et Jean-Marc Reynaud.
L'école libertaire a souvent été sollicitée,
Tide Roussel,
par des mouvements pédagogiques ou syndicaux pour permettre, avec un certificat de scolarité, l'utilisation de ce certificat par la famille pour scolariser le gamin là où la famille habitait. C'est pour ça que nous, quand la maman de ce jeune garçon est venue nous voir pour scolariser son gamin à l'école libertaire, nous n'avons jamais demandé quoi que ce soit à la famille, si ce n'est les informations d'usage quant à la personne responsable qu'il fallait prévenir et les soucis de santé. C'est tout. Bonaventure n'a jamais demandé les papiers pour n'importe quel gamin. Voilà.
En juin 2000, à la demande de ses parents Marisol et Mickaël, ce petit garçon est accueilli par Tide Roussel et Jean-Marc Reynaud et scolarisé dans l'école libertaire Bonaventure. En septembre 2001, l'école libertaire ayant arrêté ses activités, il intègre alors une école publique tout en restant hébergé par Tide et Jean-Marc. En octobre 2004, la presse annonce l'arrestation de deux étarras. Tide et Jean-Marc reconnaissent alors les parents du petit garçon, Marisol et Mickaël Albizou.
Ils savent que la police, grâce aux informations que va leur fournir une enseignante de l'éducation nationale, risque de remonter jusqu'à eux.
Ils s'attendent donc à être interrogés car leur école a hébergé un enfant de terroriste.
Nous sommes tétanisés. Moi, j'étais à une réunion du mouvement Freinet à Nice. Nous étions tétanisés. Et la grande question était, est-ce que nous allons à la recherche de cet enfant en sachant qu'il était évidemment passé par les fourches codines de la protection de l'enfant, c'est-à-dire des fourches qui permettent quand même aux enfants d'éviter l'enfermement de leur folinat, hein, faut pas l'oublier, ou va-t-on protéger l'école libertaire, va-t-on protéger notre propre famille? Donc en sachant que cet enfant, il était un peu tard, hein, 48 heures, ça fait beaucoup, était déjà aux mains de sa famille, nous avons fait le nécessaire quant au contact avec des avocats de la Ligue des droits de l'homme, à la protection des enfants de Bonaventure et puis des enfants que nous hébergions encore chez nous.
Il est 6 heures du matin, ce 30 novembre 2004, sur l'île d'Oléron.
Et évidemment, on a vu arriver à 6 heures du matin tout grand tatouin de la police scientifique, de la police politique, et le chien leur a gentiment ouvert la porte.
Le 30 septembre 2004, du genre, 6h ou 7h, enfin très tôt le matin, en tout cas, je dormais.
Jean-Marc Reynaud.
Boum, 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 police ouvrée, gna gna, bon, t'as une demi-douzaine de gens, des mâles et des femelles, armés pour la plupart, qui débarquent, voilà. Et puis, bon, on s'y attendait, hein, dès l'instant où les parents du petit avaient été arrêtés, c'est-à-dire 2 mois avant, on se doutait bien que, ils allaient essayer de savoir où était le petit. Mm-hmm. Parce que savoir où était le petit, ça pouvait signifier savoir où étaient les parents. Donc, ils nous ont arrêtés, garde à vue. Antiterroriste, bien sûr.
S'attendant à cette arrestation, Tide et Jean-Marc avaient, en amont, préparé un communiqué pour la presse. Et donc, le lendemain de leur arrestation, le communiqué est diffusé par les médias, annonçant leur mise en garde à vue.
Quand vous lirez ces lignes, nous serons en prison. Pour quelques jours, quelques semaines, notre crime ? Avoir fondé et animé une école libertaire, Bonaventure, y avoir accueilli sans formalité des enfants de tous horizons, même des membres de cato, c'est dire, et nous être pris d'affection pour un petit bout en perdition, au point de l'avoir accueilli chez nous pendant 2 ans et demi. Le monde sera toujours divisé en deux, avec d'un côté ceux qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont accueilli les petits juifs et autres, et de l'autre ceux qui ont organisé ou participé à la rafle du Veldiv, et la déportation de ces mêmes enfants. Avec d'un côté ceux qui, chez nous, à l'île d'Oléron, ont organisé en 1941 leur envoi chez les fascistes espagnols d'une cinquantaine d'enfants de républicains basques qui étaient venus en bateau après la défaite se réfugier au pays de la Révolution et des droits de l'homme, et de l'autre de simples gens comme nous qui seront toujours terre d'asile pour tous les enfants du monde. Dans ces conditions, on voudra bien nous pardonner, à défaut d'avoir choisi le chemin de l'honneur, d'avoir du moins refusé de prendre celui du déshonneur. Alors oui, nous avons hébergé un terroriste de 3 ans, nous lui avons appris à lire et à écrire, nous lui avons même transmis nos valeurs de liberté, d'égalité, d'autogestion et d'entraide, nous lui avons enseigné que les Charentais, comme les Basques, étaient avant tout citoyens du monde.
On était prêts. Et ce qui était très intéressant dans cette histoire, c'était que la police, les hommes et les femmes qui composent le corps policier n'étaient pas encore armés contre tout le monde. Et quand ils ont vu le lendemain que dans Sud-Ouest, Jean-Marc se glorifiait d'avoir hébergé un enfant sans papier, ils ont bien vu qu'ils avaient été piégés, que nous les traitions de policiers de vichistes qui venaient chercher les enfants juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que ça les avait beaucoup choqués. À l'époque, un policier ou une policière pouvait être choqué quand on leur disait qu'ils arrêtaient les enfants. Mais c'est vrai, hein, ils sont allés interroger ma fille, mineure, dans son lycée. Pour eux, c'est normal, alors que ça ne l'est pas.
Ça a été très très dur, moi un peu moins parce que j'ai eu la chance d'être malade, j'étais déjà cardiaque, hein. Mmh. Et dans la première demi-journée d'interrogatoire, bon, on a eu la possibilité de faire venir un médecin, et donc le médecin est arrivé, et puis il a décrété, enfin la médecin ou la médecine, enfin bon, pareil, a décrété que je devais aller en urgence à l'hosto parce que j'étais en train de faire un nouvel infarctus. Bon. Donc je suis allé à l'hosto, ils ont continué à m'interroger à l'hosto. Par 24 heures sur 24, ils me laissaient dormir à peu près 2 heures. Mais en venant me réveiller quand même toutes les demi-heures pour me dire « Alors ça va, vous dormez bien ?» Un grand classique. Et puis, au bout de 2 jours, ma tension avait rebaissé, j'ai évité l'infarctus, en fait sûrement de peu. Et puis, ils m'ont emmené au commissariat, et là, rebelote, interrogatoire. Je suis pas d'un naturel et d'un tempérament accommodant, je le reconnais. Et donc le ton a commencé à très vite monter, puis là, pouf, rebelote, je suis tombé dans les pommes. Et les flics ont eu très peur, évidemment. Je sortais de l'hosto, merci la médecine qui m'avait décrété en état de subir un interrogatoire. Ils ignorent évidemment de quelle teneur sont ce genre d'interrogatoire. Ce qu'ils recherchaient, en fait, c'était des petits trucs. Ouais, parce que bon, quand les parents amenaient le môme, où ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils nous disaient. Et c'était pour additionner une foultitude de petits détails comme ça qu'en fait, ils nous ont interrogés. Et ils savaient très bien qu'on ne faisait pas partie des terres, et qu'on n'avait rien à voir avec eux. Mais bon, rebelote, et puis je me suis retrouvé à l'hosto, et là, ils m'ont plus cassé les couilles. Voilà. Puis, en plus, à la fin, je m'étais mis en grève de la faim, parce qu'ils commençaient à m'énerver sévère. Et bon, 2 malaises cardiaques, plus une grève de la faim, avec une tête de con comme moi, ça pouvait pas le faire pour eux, quoi. Donc, on a été relâchés, parce qu'on n'a jamais fait partie des terres, hein, tout simplement.
En ses dur nahi, en ses ses, en solako, civilizaziori. Poliziak nunaitik zerbaiten gitean pentsatu arazinai makilin darpean iduridu garela kaiolan batean jarritako txoriak usilen menpean. En ses dut nahi, en ses ez, en solako, zibilizaziorik. Kaiolaren adarrak ditugu alboan, eskuindarrek eskua zabaldu ustuan. Zigorindarren menpe tiroak gogoan, horrela bizitzerik ez dago munduan. Ez ez dut nahi, ez ez ez, ez olako zibilizaziorik. Horregatik ez dut nahi gizonen kutsurik, zibilizazioaren sasi jaun goikorik. Libre nahi du bihotzez, libre loturetik, basurdearen gisa hortzak ez duturik. Ez ez dut nahi, ez ez ez, ez olako zibilizaziori.
Marisol Iparagirre,
122 ans de prison, avec Tide Roussel et Jean-Marc Reynaud.
Sur Dissonance.
Nous, on était une école. Je ne voulais pas dire qu'on était ignorants du fait que les parents faisaient partie des terrains. Enfin, au départ, non, mais au bout d'un moment, parce que tu sais, les enfants, c'est incroyable, mais tu connais le problème, les enfants, ça cause. Et surtout quand ça se sent en confiance. On s'est dit, bon, il est vraisemblable que les parents fassent partie des terrains. Hein, que nous, on ne connaît pas, parce qu'on est pas basque, quand on habite à l'île de Léron, bon, c'est moins, on est un peu au courant, mais sans plus. Et puis, on s'est dit, bon, mais quel est le problème? Il y a deux cas de figure. Ou bien, on pense que les enfants sont responsables de leurs parents, et donc là, il fallait qu'on refuse d'accepter cet enfant. Ou bien, on pense que les enfants ne sont pas responsables de leurs parents, et là, il faut l'accepter. Hein. Et nous avons fait ce deuxième choix, à savoir dire que les enfants ne sont pas responsables de leurs parents, et que tous les enfants du monde, y compris les enfants de terroristes, hein, ou de partisans de la lutte armée pour la libération du Pays Basque, eh ben, ils ont droit à l'école, à l'instruction, à l'éducation, et puis à l'amour aussi. Voilà.
La vie de Tide et Jean-Marc croise donc le destin de Marisol et Mickaël, deux militantes de l'ETA. Mais ETA, qu'est-ce que c'est ?
ETA, ça a été fondé en Espagne, donc officiellement en 59, mais bon, c'était déjà plus ou moins fait en 58. Et à l'époque, bon, Franco était au pouvoir. Franco, c'est un fasciste. Et merde, il a fait un coup d'État en 1936, hein, en tant que général, enfin avec d'autres généraux. Et donc c'est un mec qui a fait un coup d'État, hein, donc pas du tout légitime. Et en plus, bon, il en a beaucoup voulu au Pays Basque et à la Catalogne, parce que le Pays Basque et la Catalogne étaient dans le camp de la République espagnole, issus légitimement des urnes en 1936. Et ils en ont chié les Basques et les Catalans, hein. Interdiction de parler la langue, la culture, le drapeau, tout ça, gna gna, enfin bon, bref, ils ont été, pratiquement mis en esclavage, à travailler pendant des années pour que dalle, hein, un travail forcé à la mode de chez Ruskov, et donc aucune liberté d'expression, aucune liberté politique, rien du tout. Et donc il était légitime que ces gens poursuivent une lutte contre le fascisme, hein, qui aurait dû normalement, quand les nazis ont été liquidés par les alliés, hein, ils auraient dû également liquider Franco. Oui, mais sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Juste après la victoire contre Hitler, les Ruskov devenaient une menace pour les alliés, parce qu'on parlait même d'une troisième guerre mondiale, et donc il était hors de question de laisser l'Espagne redevenir une république, en plus un peu à gauche, voire beaucoup à gauche. Donc, eh bien, on a accepté que Franco soit non pas légitimé, mais enfin bon, dans la mesure où c'était l'ennemi de nos ennemis, eh bien, on faisait plus ou moins ami-ami avec lui. Donc, que des Basques, des Catalans ou autres se soient révoltés contre le fascisme de Franco, c'est normal. Hein, y compris par la lutte armée, la résistance en France. Hein, bon, et ça permettait, avec l'hypocrisie française bien connue, hein, habituelle, que ces gens qui se battaient contre Franco en Espagne, ils se repliaient souvent en France comme base arrière. Et la France, sans pour autant les tolérer complètement, les surveillait, mais on va dire de manière très lâche, ce qui leur a permis de constituer des bases arrières très solides. Très très solides. Et donc d'être dangereux pour l'Espagne. Et puis Franco est mort.
Voilà 75.
Alors, il y a eu ce qu'on a appelé une transition démocratique. Et je pense que c'est là que le côté de la légitimité d'un combat perdait de son sens. Alors, les gens des TA ont dit, et ils n'avaient pas tant non plus, que Franco était peut-être mort, mais que tous les cadres franquistes dans la police, dans l'armée, dans la justice, etc., c'était toujours des fascistes. Hein. C'était clair et ça l'est encore aujourd'hui. Et donc, il y a eu, on va dire, une dizaine d'années après la mort de Franco, où la légitimité de ce combat pouvait encore se plaider. Mais c'est vrai qu'une dizaine d'années après la mort de Franco, ça commençait à devenir un non-sens, hein, d'autant plus que les socialistes, comme d'habitude, sans arriver au pouvoir en Espagne, ont été les pires ennemis des Basques et des Catalans. Et donc, sous gouvernement socialiste espagnol, le gouvernement a monté des brigades de tueurs qui venaient faire le ménage
en France.
Il y a eu des dizaines et des dizaines d'assassinats de militants des TA, bien sûr, mais également plein de gens où ils s'en trompaient, parce que c'était des barbouzes, il y en a qui se trompaient de photos, enfin, bon, etc., etc. Et puis le temps passant, l'Espagne étant en passe d'adhérer à l'Europe, il y a eu une espèce de marchandage, comme d'habitude, hein, entre le gouvernement espagnol et le gouvernement français. C'était du genre, bon, Franco est mort, alors depuis 10 ans, hein, c'est bon. Donc si vous voulez pas nous aider à traquer les méchants basques qui sont planqués chez vous, Tintin pour vous acheter vos avions, vos trucs, vos machins, et puis on va continuer à envoyer des barbouzes faire des assassinats chez vous. Voilà. Et donc à ce moment-là, la police française a carrément collaboré avec la police espagnole, et c'était la fin. Ils faisaient pas le poids. C'est des frontes contre des missiles Tomahawk, quoi. Le rapport de force était trop disproportionné. Et donc je pense que c'est à ce moment-là que ETA aurait dû prendre le virage. Il y avait des gens au sein d'ETA qui avaient compris la situation, en particulier un mec qui s'appelait Chomine. Mais comme toujours dans ce genre d'organisation, il y avait des gens qui étaient pour entamer un processus de paix, c'est-à-dire arrêter la lutte armée, et d'autres qui étaient pour la continuer. Et c'est ceux qui étaient pour la continuer qui ont levé le morceau, et Chomine est mort accidentellement, bien sûr, sans guillemets, tout le monde l'aura compris, à Alger en tombant d'un échafaudage. C'est bizarre. Voilà.
Peio Josep eta Bernandala, gaurra jaio dala Raulen, etxera joan da esan hemen du, ez da neria izanez. Bere ama topa dezala, aurroren aita zein du ben. Peio Josep eta Bernandala, gaurra jaio dala Raulen. Aupena eta pesadumbria zen harrak aurrak ukatu Aurrorentzako beste jaberik ezinliteke topatu Peio Josepe bilotzneria aurroren aita zuzaitu Aurrorentzako beste jaberik ezinliteke topatu Fortunatuan itzala baino ninaiz fortuna gabia Agure batek eraman ditu umia eta andria Aurra berea bazuen ere andrea nuen nerea Agure batek eraman ditu umia eta andria Eio Josepe tabernandala, aurra jaio dala raulen, etxera joan da esan emendu, ez daneria izanet. Bere ama topa dezala, aurrorek gaita zein du ben. Eio Josepe tabernandala, aurra jaio dala raulen.
Marisol Iparaguirre,
122 ans de prison avec Tide Roussel et Jean-Marc Reynaud.
Sur Dissonance. Marisol est incarcérée et condamnée en France à 20 années de prison. Commence pour elle et son compagnon un tour de France des centres pénitentiaires.
Et pour Jean-Marc et Tide, une immersion dans le monde des détenus politiques et de leurs conditions de détention.
Nous avons été donc très impressionnés par les difficultés insurmontables qu'avait à une personne incarcérée, qu'elle soit homme ou femme, à maintenir un lien serein avec son propre enfant, alors même qu'il avait encore le maintien de ses responsabilités familiales. C'est pas parce que tu es emprisonné que tu n'es pas responsable de la vie de ton enfant. Et ça a été insupportable sous prétexte qu'ils étaient terroristes ou sous prétexte qu'ils étaient enfermés. Il fallait qu'ils rencontrent leur enfant en présence d'une association d'éducateurs ou de psychologues. C'est insupportable. Pendant un an, nous avons été confrontés à cela et Marisol et son compagnon, Mickaël, ont dû faire une grève de la faim et une grève de la faim et de la soif pour pouvoir rencontrer une fois par mois leur petit garçon dans le parloir réservé aux relations familiales. C'est incroyable. Et c'est vrai qu'il ne peut y avoir que des prisonniers politiques qui se battent tout de suite pour ce maintien du lien familial.
Marisol et son compagnon ont fait le tour de France des prisons, puisqu'en 2004, ils étaient à Gradignan, après à Nantes, après à Muret, Marseille, Draguignan de nouveau, Perpignan, Fresnes, Lyon, Réau, enfin, ça c'est quand ils étaient en France, ça veut dire que chaque fois, il fallait que le grand-père prenne le train, que le gamin passe des nuits dans le train, attendre que le parloir s'ouvre, enfin, des conditions terribles.
Tout à fait. Enfin, il faut savoir que, comme ils étaient, comme on l'appelle, DPS, tenu à surveiller, particulièrement à surveiller, la prison, les responsables de la prison ne donnaient aucune information à la famille qui s'occupait du petit garçon. Ce garçon a un parloir familial avec son père et sa mère, une fois par mois, où ils sont tous les trois, et régulièrement des parloirs comme, c'est un mot que je n'aime pas, hein, une entrevue dans une petite cellule particulière pour voir la famille. Et à chaque fois que la police décidait ou l'administration pénitentiaire décidait de changer de prison Marisol ou Mickaël, la famille n'était pas avertie. Le grand-père, qui était un homme très âgé, s'est retrouvé du côté justement de Toulon devant une prison close.
Et oui, parce qu'ils avaient changé les parents de site et de lieu, quoi.
Hein ? Tout à fait.
Et donc après, elle est condamnée, je ne sais pas trop le cas de Mickaël, son compagnon, mais Marisol prend 20 ans de prison par l'État français pour participation à une bande de terroristes. Elle est libérée au bout de 15 ans et dès qu'elle ressort, en 2019, il y a une demande de l'État espagnol pour récupérer Marisol et la France accède à sa demande et expatrie Marisol dans les prisons et les geôles espagnoles.
Alors, il faut savoir qu'elle a été condamnée à 20 ans, hein, ouais. Et qu'ils sont sortis au bout de 17 ans. Je crois que même Mickaël a fait du rab. Il faut savoir que des demandes d'extradition étaient régulièrement envoyées à la justice française, puisque Jean-Marc et moi avons souvent été au procès, hein, à Toulouse, je crois, à Paris, de ces demandes d'extradition. Et la justice française a refusé, soit parce qu'il n'y avait pas une garantie que Marisol ne soit pas martyrisée, hein, de la part de la police espagnole, soit parce que les faits pour lesquels l'extradition était demandée n'étaient pas suffisants. Donc pendant 17 ans, la justice française a refusé. Et il faut également savoir que Marisol et Mickaël ont participé pleinement au processus de désarmement de Théa, et que Marisol, qui était considérée comme la grande prêtresse de la lutte armée, c'est comme ça qu'elle était considérée dans la presse, dans les livres, a lu le communiqué de dissolution de Théa, et a même, dans le cadre de ce communiqué, lu la petite phrase disant que il y a eu des morts injustes, hein, de la douleur des deux côtés.
Des deux côtés, oui, oui. Pour compléter ce que tu dis, Tid, l'ETA a arrêté la lutte armée en 2011, elle rend les armes et les dépose en 2017, et elle s'autodissout avec la déclaration lue par Marisol, justement, en 2018, pour favoriser un processus de paix qui était initié par la société civile basque.
En 2019, Marisol et Mickaël sont extradés vers l'Espagne.
C'est complètement grotesque, ils sont, quand elle était arrêtée avec son mari, Mickaël, hein, le père du petit, et petit, et, bon, lui, il a fait 15 ans en France, hein, il est arrivé en Espagne, les flics, rien. Ils l'ont pas remis en prison. Elle, elle avait fait également un peu plus de 15 ans en France, extradée en Espagne. Et puis, là, la police espagnole vient de découvrir 30 ans plus tard,
oui, bah, oui.
Vraiment, c'est vrai, c'est pas des très grands professionnels, mais quand même, 30 ans plus tard, que peut-être qu'elle aurait pu être responsable d'avoir donné un ordre pour assassiner un colonel de police ou de gendarmerie. Bon, bref. Enfin, c'est cousu de fil blanc tout ça.
Quand elle arrive en Espagne en 2019, elle est aussitôt mise en prison et elle va passer un procès auquel tu vas assister parce qu'on l'accuse d'avoir participé à l'attentat qui a coûté la vie à un commandant de l'armée de terre qui s'appelait Luciano Cortizo en Espagne. Comment s'est passé ce procès puisqu'elle a écopé de 122 ans?
Tout à fait, elle est arrivée et elle a été reçue par 12 juges d'instruction. Elle a donc 12 procès. J'ai assisté à un procès, celui du mois de juillet. Et alors, quand je suis arrivée à l'audience nationale, c'est vrai que c'était épouvantable. D'abord, il y a la Covid-19. Tu vas dans un sous-sol, il n'y a personne. Tu mets beaucoup de temps à rentrer dans la salle. La justice est publique quand même, dans les démocraties, théoriquement. Nous sommes que 6 personnes. Il y a des policiers, bien sûr, hein, on les reconnaît tout de suite. 6 personnes de la famille, tout le monde ne peut pas rentrer. Nous rentrons en retard. Une grande télé nous empêche de voir les juges parce que le procès, lui, est retransmis à la télévision ou sur le réseau Internet, alors que les personnes vivantes ne peuvent pas le voir. Marisol est enfermée à droite dans une cage, personne ne peut la voir. Juste devant elle, il y a l'avocat des parties civiles, le procureur, et ses avocats, elles, sont à l'autre bout. Elle ne peut pas communiquer avec eux. Et pas de témoin de la défense. Zéro témoin de la défense. Seuls quelques témoins des États qui ont donc été, qui ont témoigné, les responsables de l'attentat, ont témoigné en disant que Marisol Iparraguirre-Ganetxea n'était pas du tout responsable de l'attentat. Elle est sur un plan philosophique, puisqu'elle fait partie de Théa, et que tous les membres de Théa sont responsables des attentats commis par les commandos. C'est,
oui.
Et c'est pas elle qui l'a fait, c'est pas elle qui l'a commandité, et donc les États-Unis qui sont actuellement en prison, qui ont commis cet attentat, le disent bien.
C'est d'une hypocrisie, mais c'est terrible. Ça sert à rien de condamner les gens à 120 ans de prison ou à 500 ans. Parce que en même temps, l'Espagne dit « Ouais, non, mais on est un pays démocratique. Hein. Les gens, ils pourront bénéficier de remises de peine s'ils ont une bonne conduite, bien sûr. Hein, 5 ans de remise de peine sur 500 ans de prison, c'est sûr que ça change tout. L'Espagne, c'est partie de l'Europe. La France ferme sa gueule, les autres pays ferment leur gueule. Enfin, tout le monde ferme sa gueule. Hein. C'est comme pour les ventes d'armes. Hein. Aux dictatures. Bon. Faut arrêter de nous la jouer, la défense des droits de l'homme et compagnie.
Et ce qui m'a beaucoup choquée, c'est qu'après ces tentatives de paix, le fait que même les familles de victimes des attentats bougent un peu, il n'y a pas de possibilité en Espagne, mais en France je pense que c'est pareil, pour une justice restauratrice et réparatrice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pu y avoir de dialogue entre la petite fille victime de l'attentat ou la famille de ce commandant et les responsables de TA. C'est insupportable pour moi parce qu'on ne va pas vers un monde de paix, vers une troisième génération pacifiste si on ne veut pas réparer les plaies du Pays Basque ou les plaies de l'Espagne.
Oui, d'ailleurs, Tide, je rappelle que tu as écrit dans Le Monde Libertaire, il faut donner une chance au processus de paix et à la résolution du conflit parce que le vivre ensemble exige des actes forts de la part des autorités espagnoles et parce que la justice ne doit pas être synonyme de vengeance.
Ir y quedar y con quedar partirse, partir sin alma, ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse, arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre la tierna arena. Caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse, hablar entre las mudas soledades, pedir prestada sobre la fe paciencia, creer sospechas o negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia. Quedar y con quedar partirse, partir sin alma, ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse, arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre la tierna arena. Caer de un cielo y ser demonio en pena, y de serlo jamás arrepentirse. Hablar entre las mudas soledades, pedir prestada sobre la fe paciencia, creer sospechas o negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia. Y es lo que llaman en el mundo ausencia, fuego en el alma y en la vida infierno. Y lo que es temporal llaman eterno, es lo que llaman en el mundo ausencia.
Marisol Iparaguirre,
122 ans de prison. Avec Tide Roussel et Jean-Marc Reynaud.
Sur Dissonance.
Alors justement, est-ce qu'on pourrait parler de Marisol? J'imagine que tu as des contacts téléphoniques, par courrier, comment elle va? J'espère qu'on pourra lui faire passer le lien Internet de cette émission pour qu'il puisse l'écouter. Je ne sais pas si elle peut écouter Internet en prison.
Non. Là, elle est à l'isolement. Alors l'isolement des prisons françaises et espagnoles... les prisons dans tous les pays du monde ont le même but, c'est de casser la personne isolée. En France, ils sont dans une toute petite cellule, ils ne voient personne, leurs lieux de promenade sont insalubres. En Espagne, les conditions d'incarcération sont très différentes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de contact avec les gardiens de prison. Mais pour autant, Marisol me disait qu'elle n'entendait aucun son humain. Ça nous rappelle quelque chose quand même, ça nous rappelle l'incarcération de la bande à Madère, hein, ou de l'armée rouge. Et c'est insupportable. Elle ne peut pas, pareil que son fils devait aller la voir, il y a eu des tempêtes de neige, personne n'a téléphoné à son fils pour lui dire ne venez pas. Il a tapé à la porte devant la prison de Soto de Madrid et on lui a dit vous n'entrez pas, alors qu'il venait de faire 800 km dans la neige. En fait, Marisol, je l'ai mieux connue en prison que, évidemment, quand elle nous confiait son petit garçon. Et il faut se dire quand même que confier un petit garçon très jeune à une équipe frappadingue anarchiste pour que son gamin puisse voir d'autres enfants, pour qu'il puisse faire du sport, pour qu'il puisse fêter son anniversaire avec des copains d'école, c'est quand même faire preuve d'un grand acte d'amour vis-à-vis de son petit garçon. Et quand on a dit à Paris, pendant son jugement, que le meilleur pote de son fils était le fils d'un militaire français, ils ne nous ont jamais cru. Parce que quand on est dans la revanche politique, on ne voit jamais l'humain qui est derrière. Et le fils de Marisol et la famille de Marisol devaient aller vers la simplicité la plus, tu vois, la plus stable à vivre. Et c'était donc se séparer de son gamin vers l'âge de 3 ans. Et ça, faut le faire. Et je tire un grand coup de chapeau. Je sais pas si je l'aurais fait. Et alors, du coup, Marisol, dans le cadre des parloirs, en sachant les conditions de détention effroyables qu'elle a eues, a toujours été à même de parler à son petit garçon, de prendre des nouvelles de la famille, de s'inquiéter pour ses parents, de s'inquiéter pour sa sœur. Elle était astite, cette fille, avant d'être Etara, mais je peux te dire que ça aurait dû être une bonne astite.
Et est-ce qu'elle a toujours l'espoir, Marisol ?
Eh bien, il vaut mieux qu'elle ait toujours l'espoir parce que elle n'a pas beaucoup d'ouverture devant elle et je crois qu'elle tient debout, d'abord parce qu'elle a besoin de tenir debout, il faut le savoir, et qu'ensuite parce que elle doit tenir debout pour son fils et pour sa famille qui l'accompagne depuis qu'elle est incarcérée. Quand elle est partie d'Espagne, comme beaucoup de Tara, elle est partie, elle avait 18 ans. Ils ont retrouvé cette femme, elle en avait 40. À ton avis, qui connaît mieux Marisol que... c'était nous. Nous qui savions le mieux ce que cette femme représentait, comment elle voyait la vie, parce qu'elle nous faisait toujours des petits cadeaux, parce qu'elle nous faisait la tortilla quand elle nous confiait son fils, parce que le petit garçon, quand il parle, eh bien, il parle, et qu'on savait qu'il avait deux familles, il avait deux pères, deux mères, et c'était comme ça. Et il a fallu que la famille de prisonniers retisse tous ces liens qui ont été rompus avant. Et je peux te dire que c'est très, très compliqué parce qu'il y a beaucoup de souffrance.
J'imagine.
Que ce soit pour des prisonniers de droit commun, mais alors quand ce sont des prisonniers politiques, la souffrance, elle est au maximum. Elle a besoin qu'on lui écrive. C'est pas la peine de lui envoyer des livres parce qu'en Espagne, tu n'as le droit qu'à 3 livres dans ta cellule.
D'accord, mais...
Et donc là, ça y est, on lui a envoyé des livres. Et évidemment qu'il faut lui écrire. Elle est à Soto Real, à la prison de Soto Real, à Madrid.
Tu as dit aussi, Tid, j'ai toujours été étonné par l'indifférence générale autour de la problématique des prisonniers et des Basques en particulier. Pour le dernier événement, il y a eu une chaîne humaine de 2000 personnes à Bayonne le 9 janvier de cette année. Mais après, on n'en parle pas beaucoup.
quand il y a eu la marche des prisonniers, bon, c'est vrai que M. Johnny Hallyday est mort ce jour-là, il y avait 10 000 manifestants à la gare Montparnasse.
Ah,
j'y
oui.
étais.
Et oui.
Avec la famille de Marisol, Iparaguir, Galetchea. Et pour autant, il n'y a pas eu 3 lignes pour dire qu'il y avait 10 000 personnes sur le parvis de Montparnasse qui marchaient jusqu'aux Invalides pour dire que ces personnes-là réclamaient la paix. C'est incroyable.
Alors qu'il faut rappeler qu'il y a encore, au jour d'aujourd'hui, 32 anciens membres d'ETA incarcérés dans les prisons françaises et plus de 200 en Espagne.
Les Basques sont un petit peuple préhistorique qui passe son temps à faire des chants polyphoniques, à manger du fromage, à boire de l'issara, fabriquer du piment et préparer des attentats. Mais voilà que Théa, quelle drôle d'idée, est désormais désarmée. Imaginez un peu le vent de panique que cette annonce a semé dans les sphères politiques. Allô, Shoah, le dernier coup de filet n'a servi qu'à ridiculiser l'État français. Heureusement, pour se venger, il lui reste encore quelques prisonniers.
La politique d'éloignement et de dispersion touche la grande majorité des prisonniers politiques basques et leurs familles. Nombre de prisonniers et prisonnières basques sont soumis à des peines que des spécialistes internationaux de politique pénitentiaire et pénale considèrent comme une forme de peine de mort lente. Vengeance aussi, quand nombre de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire leur font payer le prix de leur désarmement annoncé, organisé, assumé. Il y a comme un goût de revanche qui plane dans les coursives des prisons françaises et espagnoles.
Le 9 décembre, les Basques montent à Paris, après Fresnes, Réau, Fleury. Et ils seront tous à Montparnasse vers midi et espèrent avoir un peu de compagnie. Contre l'isolement, la dispersion, les peines de Morlande qui ne disent pas leur nom. Contre la violence des régimes d'exception dans ces lieux d'injustice que sont les prisons.
Le mot terroriste est insupportable. Personne ne peut être considéré comme terroriste. Mon père était considéré comme terroriste. Ma grand-mère, mon grand-père, tous les combattants antifascistes de la Deuxième Guerre mondiale étaient des terroristes. C'est un peu pour ça que nous avions repris le terme. Mais aujourd'hui, même derrière, des islamistes avertis et complètement frappadingues, le mot terroriste ne doit pas cacher la réalité humaine. Et ça me choque. Vraiment. Et je pense sincèrement que maintenir, surtout au jour d'aujourd'hui, un combat sur l'humanité, des relations interpersonnelles, des relations urbaines ou des relations institutionnelles devient un enjeu révolutionnaire.
Zergatik ikasi anztekoz gero ikasiak oro. Zergatik ikusi hainbertze lurralde hainbat jende zergatik ikasi ahantzeko zkero ikasiak oro. Ezer ezin eutxi, zergatik lastan du. Zergatik iguindu, iar edo etzi. Ninon naiz izango, aiez naiz ordongo. Ezer ezin eutxi. Zergatik lastan du, zergatik ikindu. Nigar dagitazko, sointa bihotz minez. Irazeki minez, zergatik zertako. Norkeranen eni, hemen hor hangi. Nigar dagitazko, sointa bihotz minez, irazeki minez.
ergati kikasi ahanste kotz ero ikasi akoro zergatik ikusi ein bertzen luralde ein bat jende zergatik ikasi ahanste kotz ero ikasi akoro.
Marisol Iparaguirre,
122 ans de prison avec Tide Roussel et Jean-Marc Reynaud.
Sur Dissonance.
J'aimerais qu'on parle des prisonniers politiques qu'il y a actuellement encore en France, parce qu'il y en a un qui est célèbre, là, Georges Ibrahim Abdallah. Ça va faire plus de 36 ans qu'il est en prison. C'est un militant communiste libanais pro-palestinien. Mais tu as aussi des membres de l'ETA qui sont en prison pour jusqu'à, je sais pas jusqu'à quand.
C'est incroyable, parce que bon, ça fait quand même 10 ans que la lutte armée a été arrêtée, hein, par ETA, zéro attentat commis depuis 10 ans. Ça fait quelques années qu'ils ont rendu leurs armes, même la police française était emmerdée, elle ne savait pas quoi en faire. Et puis ça fait 2 ans qu'ils se sont autodissous. Et donc les choses sont claires, c'est fini, terminé, tout ça. Et donc, parmi les gens que je connais, bon, il y a des Basques qui sont en prison depuis 30 ans maintenant. Ces quatre-là, Barreau, Yakes Esnal et puis Schister. Et donc eux, s'ils avaient été arrêtés en Espagne, ils auraient été condamnés à 30 ans. Et donc ils seraient sortis aujourd'hui. Mais ils ont été condamnés en France pour des faits qui ont eu lieu en Espagne. Et ils ont pris perpétuité. Hein, perpétuité avec une peine de sûreté de 18 ans. Donc ça voulait dire qu'ils auraient pu sortir, et on leur avait laissé entendre, ils auraient pu sortir au bout de 18 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Et puis en fait, ça fait 31 ans, et ils sont toujours là. Alors ils sont toujours là, pourquoi ? Eh bien c'est vachement simple. Là encore, le gouvernement espagnol est non pas dans la justice, mais dans la vengeance. Parce que les gens fassent de la prison pour un certain nombre d'assassinats, je veux dire, ça peut se discuter aussi. Hein. C'est pas ça le souci. Mais que on décide de les emprisonner à vie, c'est-à-dire de les faire mourir en prison, avec des chantages économiques et politiques divers, ça, là encore, la France ne sort pas avec beaucoup d'honneur de ce genre de deal. Alors je pense que ça risque d'évoluer, parce que les derniers fachos en Espagne commencent à casser leur pipe, hein. Il n'y en a plus beaucoup, même les jeunes, n'ont pas la dimension de leurs anciens. Hein. Et puis en France, si jamais il y a quelques irréductibles qui décidaient de reprendre la lutte armée, là la France est à peu près tranquille de ce côté-là, il y a déjà assez avec les islamistes, alors si en plus il y a des Basques qui s'y mettent, le gouvernement n'a rien à gagner. Et donc je suis assez optimiste, entre guillemets, pour que les copains sortent d'ici quelques années. Mais ils devraient être sortis aujourd'hui, quoi. Ça n'a pas de sens. Hein, des gens de 70 ans, la lutte armée a arrêté. Ils ont payé, quoi, largement.
Macron a dit récemment qu'il se félicitait du processus de paix au Pays Basque.
Hein,
il n'y a pas de processus de paix tant qu'il y aura cet acte de vengeance qui est de maintenir les prisons.
Et en plus, le traitement de toutes les parties prenantes du conflit basque, c'est même pas inégalitaire, c'en est terrifiant. Parce que les gens du GAL qui ont été... le GAL, groupement antiterroriste, je sais pas quoi. Des mercenaires qui venaient tuer des gens en France. Hein, bon, quand il y a eu des arrestations en France ou en Espagne, des mecs qui sont sortis au bout de quelques années. Et là, parce que c'est les Basques. Vous comprenez, il y a l'association des victimes. Et putain, il y a pas des associations de victimes de ces terroristes fascistes, là. Et si on veut rentrer dans un processus de paix, il faut établir une balance juste, hein. qu'il y ait des gens qui soient condamnés, moi ça me choque pas sur le principe, hein, après il faut vraiment le détail, mais que ça soit la même chose des deux côtés, pas que d'un seul.
Et pour Georges Ibrahim Abdallah, qui est...
Alors, bah, c'est pareil, hein. Mmh. Ibrahim Abdallah, faut quand même savoir que c'est lui qui s'est livré à la police française, parce qu'il avait peur de se faire zigouiller par un commando concurrent. Et donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de souci, il se sentait pas en danger au niveau de la justice française. Eh bien, il y a eu là encore, enfin bon, il y a eu des négociations à un moment donné avec je sais plus quelle fraction palestinienne ou libanaise, et il a failli être échangé, mais ça s'est joué il y a deux jours. Il a failli être échangé avec je sais pas qui était pris en otage au Liban. Et donc ça s'est pas fait, et il est toujours en prison. Et pourquoi il est toujours en prison? Parce que là encore, pression des États-Unis et pression d'Israël, voilà, qui ont eu des gens de chez eux qui sont fait liquider par des organisations palestiniennes, et donc quand ils en viennent, eh ben ils le lâchent plus. Voilà. Et donc c'est dégueulasse parce que je dis pas que Abdallah il a rien fait, mais en tout cas il a rien fait de ce qu'on l'a accusé et ce pourquoi on l'a condamné.
Est-ce que tu veux rajouter autre chose?
Oui, je veux saluer les Tollards des Bobettes, s'ils écoutent la radio. On fait un grand coucou aux Tollards, voilà.
Merci beaucoup, Tid. Tu aurais un mot pour Marisol, en espérant qu'elle t'entende?
Ben, je l'embrasse très fort.
Cette émission est diffusée sur les antennes de Radio Sainte-Afrique mercredi 24 février à 8h et samedi 27 février à 16h. Elle est aussi à télécharger ou pas sur le site de dissonance.ovh, sur lequel vous trouverez divers liens qui vous permettront de compléter cette émission.
Salut
et fraternité.